Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis tellement excitée! Je suis avec Jessica Brodeur, connue sous le nom de Jess Brodfit. Salut Jessica!
Salut Sarah! Merci de l'invitation!
Merci à toi! Je suis tellement excitée, je suis même une fan. Fait que... J'aime tellement ton message puis toute ton histoire, mais là, justement, tu sais, pour les gens qui nous écoutent puis sont comme « Qu'est-ce que c'est ça, Sarah? » Je connais pas Jess, moi je suis pas aussi fan que toi. C'est qui? C'est quoi son histoire? Comment tu décrirais ça? On va faire le tour de la question, là, mais comme, comment tu décrirais Jess?
Ben, en fait, je suis une fille bien intense dans la vie. Je suis passionnée de bien des choses, je suis passionnée de la vie. Puis, dans le fond, ben, mon histoire, un peu pourquoi je suis connue sur les réseaux, c'est en fait que j'ai partagé mon vécu avec les troubles alimentaires. Et mon rétablissement à travers tout ça, comment j'ai reconnecté avec mon corps, comment j'ai su l'accepter, l'aimer. Donc, c'est vraiment un peu ça qui m'a fait connaître finalement. Puis, d'un autre côté, ben, je suis maman d'un garçon de bientôt 10 ans. Je suis mariée à un homme que j'adore. Puis, je suis aussi du côté professionnel. Je travaille dans un bureau, job à temps plein. Et aussi, je suis entraîneur à mes heures, donc je suis entraîneur certifié. Je peux dire que je suis une entraîneur inclusive et bienveillante qui mise beaucoup, beaucoup sur la diversité corporelle, qu'on peut bouger peu importe notre corps, puis qu'on n'a pas besoin de le changer. Fait que c'est un peu un très gros survol rapide, mettons.
Bien, j'aime tout ce que j'entends, puis là, j'ai un million de questions, puis je pense que c'est ça que j'aime de toi, ton intensité, puis le côté que tu es passionnée, parce que ça me rejoint beaucoup.
Oui.
Mettons, on commence là, parce que j'ai le goût de oui, d'aller dans bon, le trouble alimentaire, puis qu'on comprenne l'évolution, puis de où ça vient, parce que toi, comparé aux autres partages de vécu que j'ai eu sur le podcast, ton cheminement n'a pas commencé de la même façon, puis c'est ça que je trouve tellement fascinant. Fait que, puis il y a aussi le côté que je veux qu'on aborde de, justement, tu sais, comment te passer de trouble alimentaire qui a commencé dans un milieu sportif à aimer le sport encore aujourd'hui, puis à être à l'aise avec le sport. Fait que, il y a tout ça que je veux aborder.
Oui, donc, en fait, ben, mes troubles alimentaires, comment ça a commencé? Ben, il faut savoir que je ne savais pas que j'avais des troubles alimentaires. Ça m'a pris 5 ans avant de réaliser que j'allais pas bien, finalement. Mais ça a commencé un peu très sournoisement. Dans le fond, je venais d'accoucher, j'étais dans mon congé de maternité. Puis après, ben, dans le fond, l'année de congé de maternité, j'ai décidé de me remettre en forme et de perdre du poids, un peu comme une très grande majorité de la société. Exactement. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans le domaine des gyms, mais dans un bureau, parce que moi, c'est ça mon travail, là, je suis acheteuse de métier, donc j'ai été engagée dans une entreprise d'ici qui a des gyms. Puis, ben, j'ai décidé de me remettre en forme. Fait que c'est comme ça que ça a commencé tranquillement à s'immiscer dans ma vie au niveau du contrôle. Donc, le contrôle de mon poids, le contrôle de mon assiette, le contrôle de mes entraînements. Je perdais de plus en plus de poids, puis le contrôle me donnait une genre de confiance en moi, puis je me valorisais beaucoup avec les commentaires que je recevais des gens. Hein, on félicite tellement le fait de perdre du poids, c'est donc bien inspirant. Donc, je me nourrissais de ces commentaires-là d'autrui qui étaient autour de moi. Mm-hmm. Et ben, ça a continué au fil des années, mais c'est devenu de plus en plus intense. Donc, j'ai contrôlé encore plus mon assiette, réduire mes portions, réduire mes macros, réduire mes calories, tout ça. Tu sais, je pense que j'étais à l'intérieur de moi, tu sais, une nutritionniste qui connaissait toutes là, des valeurs nutritives par cœur et tout. Je dis pas que les nutritionnistes... Ça
probablement fait plus. Non, mais justement...
Mais dans le sens, j'étais une cliente modèle.
Ben, c'est ça. Ouais, c'était par rapport à moi, tu devais les connaître plus. C'est souvent ça qui arrive en trouble alimentaire. C'est quand même... Oui. Quand même fascinant.
Fait que je t'ai rendue comme la cliente modèle, finalement. Là. Puis je mets des gros guillemets ici, là. Ouais. C'est vraiment pas pour généraliser de votre métier de nutritionniste. Parce que
mais non, je sais bien.
Mais dans le sens, je connaissais tout par cœur. Fait que j'étais vraiment la cliente modèle...
Puis la modèle des anciennes façons de faire en nutrition, je dirais. C'était vraiment exactement ça dans le temps. Parce que là, aujourd'hui, tu serais plus ma modèle. Je t'accueillerais avec plaisir, mais on parle pas dans mon bureau de calories. Puis de faire
non. Exactement. Donc, je suis devenue vraiment très, très, très intense dans tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde du fitness. Donc, les compétitions fitness. Et... C'est venu en moi ce désir-là de le faire moi aussi, puis d'atteindre un peu ce corps parfait, entre guillemets, ce corps parfait, ce corps idéal que je voulais atteindre parce que j'avais, tu sais, à certains moments, j'avais atteint des plateaux sur mon corps, tu sais, la perte de gras venait plus nécessairement, donc j'avais besoin un peu de plus. Et je me suis lancée dans le monde des compétitions de fitness, fait que ça, on parle de, ça faisait donc 4 ans de perte de poids, de contrôle et tout dans mon processus. Et quand je me suis lancée dans les compétitions de fitness, en fait, j'en ai fait 3 dans la même année, qui est vraiment très, très gros. C'est énorme, en fait, là, quand on fait des compétitions de fitness. La majorité des gens vont en faire 1 par année parce que c'est très exigeant mentalement, physiquement. Moi, je n'ai fait 3. Parce que, tu sais, intense comme je suis.
Mais là, on peut-tu définir c'est quoi du fitness? Parce que, tu sais, des fois, on entend ce mot-là. Puis là, des fois, c'est repris aussi le mot « fit ». Tu sais, mettons « fit mom » ou des trucs comme ça. Mais du vrai fitness, compétition de fitness, à quoi on peut s'attendre? C'est quoi exactement?
Oui, en fait, les compétitions fitness, il y en a qui vont dire aussi, tu sais, de bodybuilding. Ouais. Tu sais, on a l'image un peu, là, de l'homme hyper musclé en speedo sur une scène. C'est dans ce milieu-là. Donc, moi, j'étais dans les catégories bikini fitness. Donc, c'est des compétitions où on juge le physique, tout simplement. Fait que c'est vraiment que
c'est juste
des
compétitions. Du pas jugement. De force, pas rien. C'est que non. Le physique.
Que le physique en comparaison avec celles qui sont à côté de toi et en comparaison aux standards de l'industrie si tu ressembles au look que tu es supposé ressembler. Okay. Fait que c'est purement ça. Donc, les compétitions de fitness, en fait, c'est qu'on dans le processus, on va, ben, évidemment, on va perdre beaucoup, beaucoup de gras pour aller réduire ça au minimum. On va faire beaucoup d'entraînement pour venir muscler. Donc, on va venir définir les muscles d'une certaine façon pour modeler le corps à la manière des standards qui sont bien vus. Donc, un effet symétrique, un effet de conditionnement ultime, là, si je peux dire ça. Puis, en fait, ben, le jour de la compétition, on veut que le corps soit, tu sais, le modèle, finalement, de ce milieu-là. Puis on va se comparer à côté de la fille qui est à côté de toi, de gauche et de droite. Puis là, on va faire des quarts de tour. Donc, on se tourne de côté.
Oh mon Dieu, OK.
De l'autre côté, de face. Puis là, ben, faut forcer nos muscles, faut prendre des positions super, tu sais, comme... Il y a des positionnements aussi, là, qui sont dans cette réalité-là. Puis là-dessus, ben, on est en petit bikini, brillant, avec nos talons hauts, gros make-up, la coiffure, le spray tan, on est foncé pour mettre en valeur les muscles.
C'est ça, j'allais demander, hein? C'est ça, y a-t-il aussi, OK?
Oui, donc, dans le fond, le spray tan sert à venir, bien évidemment, rendre la peau plus foncée pour faire de l'ombrage. Donc, évidemment, ça va venir accentuer les formes des muscles. Puis avec l'éclairage sur la scène, ben ça vient encore accentuer le tout pour avoir de l'air, avoir de l'air du mieux que tu peux dans ce genre-là. Ouais. Puis après ça, ben c'est ça, il y a des classements, là, 1, 2, 3, puis bravo, bravo, puis tu continues, si ça te tente dans ce milieu-là, de continuer à développer, à modeler ton corps dans cette industrie-là. Fait que c'est vraiment ça, les compétitions de fitness.
Puis, comment tu fais pour... Parce que, tu sais, on n'arrête pas de le dire, tu sais, le poids, ça se contrôle pas à long terme, c'est difficile et tout. Fait que là, c'est un poids artificiel que tu vas aller maintenir dans ce genre de compétition-là. Là, j'imagine que ça doit être difficile quand même à maintenir tout ça.
Oui, exactement. C'est vraiment très artificiel dans un court laps de temps.
C'est bon de le préciser.
Oui, c'est vraiment bon à préciser. Tu sais, les gens qui ont les shapes de stage, comme on dit, ben c'est l'instant d'un moment de juste l'après-midi de ta compétition. Là. Tu sais, ce physique-là, tu peux même pas le garder plus qu'une journée. Là. C'est vraiment heures. Le physique que tu as sur la scène, ça dure très, très, de manière courte, je cherche mes mots, de manière courte. Parce qu'après ça, le corps, il a besoin de se nourrir, il a besoin de boire, on est déshydraté. Il y a vraiment plein de techniques.
C'est ça, je veux pas donner des outils aux gens qui ont une mauvaise relation avec la nourriture, mais je veux juste mettre en lumière que, comme tu dis, ça, c'est pas la réalité du quotidien. Ton corps peut avoir dit ça tous les jours. Il a été vraiment façonné pour cette journée-là. Je trouve ça intéressant d'aller normaliser ça aussi, là.
Oui, c'est ça. Puis, il ne faut pas penser que, justement, c'est cette shape-là que les gens ont à longueur de journée, à longueur d'année, vraiment pas. Puis même durant le processus, ben le corps change très, très rapidement. Puis, tu sais, clairement, moi et toi, on le sait, là, ben, tu sais, moi, je le sais encore plus maintenant avec le recul que c'est très extrême de faire subir ça à son corps. C'est pas sain. Il y a rien de sain, là. Même si les gens disent que ce l'est pas. Alors, j'en suis une là, qui a dit ça, que c'était donc c'était sain, c'était un lifestyle, mais non, ce l'est pas. Donc faut vraiment comprendre que on veut moduler le corps dans une courte période, puis après ça ben le corps réagit, puis on va venir le remodeler après, puis on fait vraiment des façons de faire très extrêmes pour avoir un corps extrême finalement, qui est à l'encontre du corps normal. Naturel, exactement. C'est très à l'encontre du corps naturel. Fait que le corps combat pour pas aller là, mais les manières de faire sont encore plus extrêmes, justement, pour contrer le corps.
Mais oui, puis je trouve ça vraiment important de... Puis je trouvais ça cool de le mentionner parce que nous, ce qu'on voit, mettons le public, sur les réseaux sociaux, c'est tu vas voir la photo de la personne que tu suis, que tu dis « Ah, moi, j'idéalise son corps, j'aimerais savoir un corps comme le sien. » Elle est donc bien chanceuse ou peu importe. Puis, mais dans le fond, tu sais, la personne a l'air comme super heureuse sur la photo, mais tout ce qu'il y a en arrière, le travail, la restriction, tu sais, tout ça, c'est pas pesé dans juste que je vois la photo. Fait que je trouve ça intéressant de mettre en lumière que, tu sais, dans ta balance décisionnelle de est-ce que je fais du fitness ou pas, est-ce que ça va être bien pour moi, est-ce que ça va être une bonne décision pour moi, ben il faut que tu mettes tous les éléments-là, mais tu les as pas quand tu fais juste voir des résultats comme ça ou quand t'as des gens qui t'en parlent, mais que... je dis souvent, il faut prendre des décisions libres et éclairées, il faut que tu passes les deux côtés de la médaille, mais c'est rare qu'on ait les deux côtés de la médaille en tout temps dans ce genre de décisions-là. Fait que je trouve ça bien que tu en parles.
Puis même mettons, quelqu'un qui voudrait peut-être se lancer là-dedans, puis qui va demander à quelqu'un qui est là-dedans, ben c'est sûr que la personne va dire que c'est que positif, que c'est facile ou que, tu sais, ben ça se fait bien, tu sais. Puis c'est là le danger aussi parce que. Tu sais, je veux vraiment pas généraliser, mais de mon point de vue, celles qui font du fitness, peut-être que la majorité ont des troubles alimentaires et elles ne le savent pas. C'est zéro scientifique ce que je dis, c'est vraiment juste de ma propre perception pour l'avoir vécu moi-même, puis avoir été tellement dans mon monde de pas penser que j'avais des troubles alimentaires finalement. Mais la majorité d'entre elles et d'entre eux, parce que ça va tout aussi bien pour les hommes, il y a des troubles alimentaires qui se cachent derrière, mais... Ben c'est ça, on le réalise pas, c'est camouflé un peu avec un objectif, c'est tellement bien valorisé de dire qu'ils ont donc un corps inspirant, qu'ils ont de la détermination, qu'ils ont de la volonté, que ça fonctionne pour vrai, qu'il y a rien qui peut paraître. Donc quelqu'un qui va se renseigner puis qui va dire « moi j'aimerais bien le faire, je veux aller chercher les informations », ben il y a quand même des petits red flags à avoir. Puis justement, moi, avec mon vécu puis mon témoignage, je veux venir justement comme en parler de ça, de ce côté-là, puis de vraiment la vraie réalité. Parce que c'est vrai, quand j'étais dedans, je l'avais le beau sourire, puis j'étais quand même heureuse. Je veux dire, j'étais pas malheureuse tous les jours de ma vie, là. J'étais heureuse, j'étais fière, j'avais le beau sourire, je me mettais de l'avant. Mais tu sais, au final, toute la souffrance que j'avais au quotidien à combattre mon corps, combattre la faim, combattre tout ça, ben ça l'a amené une détresse psychologique qui a été comme de pire en pire pour me faire sombrer vraiment dans un très bas fond de baril pour finalement que je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Tellement. Je pense que tu es quelqu'un qui se pose des questions là-dessus puis qui l'envisage pour prendre une décision libre et éclairée, tu d'en parler peut-être avec ses professionnels de la santé. Ça peut être une bonne idée d'en parler avec des gens comme toi qui l'ont vécu puis qui sont plus là-dedans maintenant. Tu sais, avec du recul, qu'est-ce que je peux mettre dans ma balance décisionnelle de pour et de contre? Tu sais, là, je peux remplir les pour, mais dans les contre, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, puis après ça, de voir, de bien s'évaluer puis de poser des questions, puis de pas... Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut faire, une décision impulsive, là, finalement. Ça a quand même beaucoup d'implications, ouais,
dans la vie. Et moi, c'était des décisions impulsives, oui, comme je le suis, vrai, mais oui. Oui, j'ai appris, oui.
Mais non, mais c'est ça, puis c'est bien correct aussi, puis ça fait partie du processus, tu sais, c'est ça, hein, c'est sournois, mais je pense que d'en parler, puis de sensibiliser, ça peut aider à faire ça, tu sais. On veut pas dire aux gens quoi faire, mais d'avoir toute l'information, tu sais.
Exact, tout à fait.
Fait que là, on fait quoi quand on réalise que ça va pas?
Ça m'a pris du temps à réaliser. Dans le fond, quand j'ai eu ma troisième compétition, la dernière, j'ai gagné le deuxième titre. Puis pour moi, ça a été comme l'échec, l'échec inconcevable que je pouvais pas avoir. J'avais été deuxième position à ma première, j'avais été première position à ma deuxième. Puis d'avoir la deuxième position, pour moi, c'était comme un échec incroyable. Donc, c'est un peu dans un effet comme autodestructeur que je me suis juste comme laissée aller. Puis c'était comme de laisser aller toute l'année difficile que j'avais vécue de restrictions extrêmes de mon corps. Là, mon corps, il y a juste... Oui, vraiment. Puis là, c'est ça. Ça a été comme dans l'autre extrême. Donc, c'est là que j'ai devenu... dans le fond, j'ai eu des compulsions alimentaires qui se sont comme accélérées dans le temps, qui sont devenues de plus en plus intenses. Et où je vivais finalement de l'hyperphagie. Puis c'est après comme quelques mois que là, ça allait pas. T'sais, à chaque fois, je me disais, oh, je vais revenir, je vais revenir, je suis capable, je le sais, je l'ai fait tellement longtemps, je vais revenir on track. OK, lundi, je vais revenir en... Tu sais, je me remets. Mais à chaque fois, ça fonctionnait pas, je retombais. Puis à un moment donné, on dirait que j'étais dans un état un peu... gris, c'était gris. Tout était gris dans ma tête, mon humeur le montrait. T'sais, j'étais très triste, j'étais très en colère, j'étais très honteuse. Je me cachais de plus en plus parce que on m'avait tellement valorisée par mon physique et mes objectifs que là, je tombais dans l'autre côté, que là, j'avais plus l'attention que j'avais. C'est ça. Ou c'était de l'autre côté. T'sais, c'était de me souligner que j'avais pris du poids. Et ben là, l'humeur vient avec, on devient encore plus culpabilisé de tout ça. Puis j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai comme juste écrit à une de mes amies qui était nutritionniste, qui travaillait avec moi, puis j'ai dit « j'ai besoin d'aide. Je pense que j'ai des troubles alimentaires, peux-tu m'aider? » Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être suivie pour débuter mon rétablissement finalement.
Ouais, puis t'en parles beaucoup sur les réseaux sociaux de ce cheminement-là, c'est tellement inspirant, ça fait du bien, ça donne l'espoir aussi, c'est le fun d'entendre. Puis moi, ce qui me fascine dans tout ce cheminement-là, c'est comment là, aujourd'hui, un trouble alimentaire qui a commencé dans le milieu du fitness, donc du sport, et là, aujourd'hui, que toi, t'as un job dans le sport, puis t'as du plaisir là-dedans, puis que ça te fait bien, je sais qu'il y a beaucoup, tu sais, de... justement, de thérapie là-dedans, puis t'as fait tout je sais pas comment l'appeler, là, mais tu sais, ton rétablissement, finalement, de ton trouble alimentaire. À quel moment dans le processus, toi, puis là, c'est pas un conseil personnalisé pour tout le monde, mais toi, Jessica, à quel moment dans ton processus t'as catché que t'étais prête à retrouver une relation avec l'activité physique, puis que ce soit fait sainement?
Ça a pas été très noir et blanc, disons. Moi, dans ma tête de rétablissement, je travaillais mon image corporelle. C'est, je dirais ça, c'est une des choses que j'ai travaillé en premier lieu, beaucoup, beaucoup. On m'a expliqué avec mes thérapies, avec ma psychologue et ma nutritionniste, la majorité des gens vont peut-être commencer plus avec la relation à la nourriture en premier. Mais moi, on dirait que c'est l'image corporelle qui est venue un petit peu plus avant, au départ. J'ai travaillé l'alimentation aussi, là, mais l'image corporelle a beaucoup été travaillée là-dessus. Parce qu'en plus, dans l'année de mon rétablissement, dès que j'ai été chercher de l'aide, à la fin de l'année, je me mariais. Puis on pourra revenir sur ce point-là. Mais je me mariais, puis mon objectif, c'était quand même de me trouver belle à ce moment-là. Vu que, quand je suis allée chercher de l'aide, je me trouvais la plus laide de toute l'histoire de l'humanité. Donc, je me disais, un de mes objectifs, c'était ça. Fait que, on pourra revenir, très grande parenthèse. Mais l'activité physique a comme continué à être comme elle était. Donc, même dans mon début de rétablissement, où je travaillais ma relation à la nourriture, les règles que je m'étais imposées à travers les années, accepter mon corps qui change, je continuais quand même d'avoir mes plans d'entraînement, je continuais d'avoir mon coach de fitness, qui était encore là, je tiens quand même à le préciser. Il me faisait encore des plans alimentaires, puis il me faisait encore des plans d'entraînement. Mais j'étais en début de rétablissement, puis là, je vois tes yeux qui sont grands comme des... Pour ceux qui nous voient pas, on nous voit pas, mais Sarah a présentement des yeux grands comme des billes. Fait que même mon coach de fitness continuait à me suivre là, dans le début de mon rétablissement.
Là, il savait-tu, lui, que tu étais en trouble alimentaire?
Oui.
OK.
Trois petits points, tu sais.
Non, ça, on n'ira pas là, mais je veux juste...
Ben,
juste
non, mais trois petits points dans le sens... oui, il savait.
Non, mais... Ouais,
mais c'est okay. Il y avait quand même encore... l'effet contrôle, tu sais, qui revenait souvent.
Ben, c'est ce qu'ils connaissaient, là, en fait. Là. C'est dans ce milieu-là, j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Là.
Exactement. Fait qu'évidemment, à un moment donné, j'ai coupé ce cordon-là pour vraiment me séparer de cette ancienne vie-là, finalement. Faire le deuil de tout ça. Donc, mes plans d'entraînement, tu sais, j'ai continué à les faire. Je m'entraînais au gym, ça continuait. Puis tout, tu sais, pour moi, tout allait bien, là. Je continuais quand même d'aller au gym, sans nécessairement vouloir changer mon corps, mais je pense que je me l'avouais pas quand même à moi-même. Là.
La ligne est mince, des fois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Vraiment, tu sais, il y avait tout le temps la portion de moi qui voulait se rétablir, mais qui se disait que peut-être que dans mon rétablissement, j'allais reperdre du poids quand même. Tu sais, j'avais toujours ce petit espoir-là qui était teinté là, au début. Puis c'est à un certain moment, quand j'allais quand même assez... Quand j'allais mieux, finalement, un peu, un moment donné, j'avais rempli un formulaire avec ma nutritionniste, je me rappelle pas du nom, probablement que toi, tu vas savoir, mais c'était comme plusieurs questions qu'il fallait dire si c'était souvent, parfois. Puis, il y avait une question, c'était est-ce que vous calculez les calories lorsque vous bougez? Ou une phrase comme ça, je me rappelle pas exactement. Puis, j'ai marqué oui, très souvent. Et, bien là, évidemment, avec cette question-là, j'ai comme eu un petit, un petit miroir qui m'est regardé en moi-même de se dire « Oh, il y a peut-être encore quelque chose là. » Puis, bien, j'ai amené cette question-là en thérapie avec ma psy. Je me suis dit on va creuser le sujet. Ça a été le sujet de cette journée-là de thérapie. Puis, durant la séance, ma psy m'a regardée et elle a dit « Tu vas enlever ta montre de sport. » J'ai dit « Ah, oh, ben oui, facile. » Ben, pas de problème. Moi, je voyais pas de problème. OK, parfait. Uh-huh. Fait que je vais l'enlever. Et le lendemain, j'étais au gym à mon travail parce qu'on a un petit gym là au bureau. Et ça a été tellement un entraînement difficile de pas avoir ma montre de sport qui me donnait mes battements cardiaques, qui me donnait mes pas, qui me donnait mes calories et les graphiques de ce qu'une montre de sport peut donner pour me dire finalement si j'avais eu un bon entraînement ou pas. Mm-hmm. C'est là que j'ai vraiment réalisé, OK, le monde de l'entraînement est difficile aussi, là. Il y a encore un contrôle qui est là, puis ce petit bidule-là à mon poignet était comme le dernier élément à laisser aller, un peu. Tu sais, à laisser aller ce contrôle-là.
Ah oui,
je savais pas, lâcher
prise, hein?
Ouais, je comprenais pas toute l'emprise de ce petit outil technologique-là dans mon poignet. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur ma relation au sport parce que là, j'ai vu que ça fonctionnait pas. Donc, j'allais au gym encore pour brûler des calories ou, tu sais, de regarder ce que ma montre me disait, de me dire « c'est-tu un bon entraînement ou pas? » Alors, j'ai dû travailler très fort. Fait que l'amour du sport a comme soudainement diminué. J'y allais comme plus pour les bonnes raisons. Puis, il fallait que je me pose la question « est-ce que j'aime vraiment ça, faire ce que je fais? » Est-ce que j'aime
ça
vraiment...
aussi, hein? Ouais?
J'avais tellement été dans une optique d'aimer, oui. J'adorais aller au gym tout le long de mes troubles alimentaires. J'adorais aller au gym, mais c'était pour modeler mon corps. Mais là, d'y aller juste pour le fun, comme j'arrivais pas à faire la différence, à trouver le pourquoi du comment. Fait que j'ai comme eu une écœurantite. J'ai comme vraiment diminué, j'y allais presque plus. J'ai comme fait la coupure parce que j'étais comme, ben, ça sert à rien. Ça me sert à rien d'y aller, j'aime pas ça, je le sais plus. Fait que j'ai dû comme un peu me couper de ça, puis de voir, OK, y a-tu d'autres façons que j'aime bouger, que je dois découvrir?
Mm-hmm.
En dehors de la performance, en dehors des statistiques, en dehors des chiffres. Donc, j'ai été plusieurs mois à essayer. Donc, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé de la danse, de la danse dance workout un peu, mais comme pour le fun. Fait que, tu sais, j'ai vraiment essayé plein de choses. Des fois, je rebougeais dans mon gym à la maison. J'ai un petit gym à la maison pour faire des entraînements. J'en faisais une fois par, tu sais, de temps en temps, puis ça l'allait. Mais ça a pris du temps. Fait que ma relation à l'entraînement puis au mouvement a dû évoluer, a dû changer, puis que je me repose vraiment les bonnes questions. Puis, faut dire aussi, dans cette période-là, tu sais, moi, j'enseignais dans les gyms du temps de mon trouble alimentaire, j'enseignais dans les gyms, donc je donnais des cours de groupe. Puis au début de mon rétablissement, je continuais d'en donner, mais j'étais tellement dans une humeur et des sentiments de honte de mon corps. Tu sais, les gens me connaissaient pour la fille qui faisait du fitness, qui était donc en shape, qui donnait des cours en shape, que là, de me voir avec un corps plus gros, que de la misère de faire les mouvements, parce que mon corps a tellement changé rapidement que le corps c'est pas comme a pas pris le temps de prendre le temps de se réhabituer, que j'ai décidé de démissionner de ce poste-là. Fait que je me suis coupée. Ça a été juste avant la pandémie. Ça a quand même bien donné parce que tout a fermé, mais j'ai coupé ce côté-là de honte, de « je peux plus faire ce métier-là ». L'industrie montre tellement des gens qui sont minces, fit et en shape que j'allais me faire juger, je me jugeais moi-même, donc j'ai juste décidé de lâcher. Puis c'est quand que j'ai repris goût, plusieurs mois plus tard, à essayer de voir qu'est-ce que j'aimais, ce côté d'enseigner aux gens me manquait vraiment. T'sais, c'est comme si j'avais fait un deuil de « je pourrais plus jamais faire ça de ma vie parce que j'ai pas le physique. j'ai plus la forme physique pour le faire. Ça m'a pris, t'sais, ça a fait un gros deuil. » Puis là, on dirait que ça me manquait vraiment pour finalement avoir la chance de donner des cours pour une entreprise qui travaillait un peu plus dans la diversité corporelle puis qu'on me laisse ma chance. Si je peux dire en parenthèse, c'est qu'on me relaisse la chance de réenseigner, mais que mon corps, ça ne changeait rien de quoi il avait l'air. Puis j'ai repris goût. Donc j'ai repris goût à faire cette connexion-là du sport, d'enseigner à des gens, de les motiver. Puis je pense que c'est ça qui est venu comme rallumer l'étincelle du mouvement, mais positif. Puis à travers le temps, ben le yoga finalement a pris le bord parce que, bon, j'ai beau essayer à chaque fois, là, ça...
C'est pas pour toi.
C'est pas pour moi. J'essaie fort, là, mais non. C'est pas pour moi. Donc, là, l'entraînement est revenu dans ma vie, mais plus de manière à enseigner et à bouger avec les gens. Puis, tranquillement, avec le temps, ben, c'est là que j'ai développé ma propre entreprise d'entraînement à moi tout seul, comme travailleur autonome, de faire mes choses à moi, avec ma vision. Puis, c'est moi qui décide de ce que je veux bien dire, ce que je veux faire. Ouais. Puis que j'ai bâti à travers le temps, puis que je fais encore aujourd'hui. Puis ma vision maintenant, c'est réellement de montrer aux gens qu'on peut avoir du plaisir à bouger. On peut aimer faire ce qu'on fait sans que ça passe par le changement corporel. Puis comme j'ai vécu dans un corps plus gros qui bougeait, qui avait de la misère à faire certains mouvements, j'ai compris la réalité de mes participantes. J'ai compris que t'as beau dire le coach en avant de faire tel mouvement, ben la personne, si elle a une certaine morphologie, ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut qu'elle ait pas la place pour faire autant d'amplitude dans un mouvement ou de sauter aussi haut ou de mettre sa jambe de telle manière, le ventre est dans le chemin. T'sais, toute cette réalité-là, je l'ai vécue, je l'ai compris, puis maintenant, je suis capable de l'exprimer. Donc, je suis capable de donner des alternatives pour qu'on adapte le mouvement au corps et non pas d'adapter notre corps au mouvement.
C'est ça que j'allais dire. C'est tellement important. Hey, j'adore ça. J'adore cette phrase-là.
Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai pu adapter justement ma façon d'enseigner, ma façon de donner des entraînements de manière inclusive, parce que justement, moi, je pense à tout le monde. Je pense à tous les corps qui sont devant moi. Je pense à tous les corps différents qu'il y a dans le monde. Puis j'essaie de penser à toutes ces alternatives-là qu'on peut faire pour un seul mouvement, pour que tout le monde puisse l'essayer puis le rendre accessible. Puis qu'on trouve du plaisir à avoir une fierté aussi de son propre corps, puis de dire « Hey, j'ai réussi, je pensais jamais! » Puis que tranquillement, pas vite, ben ça évolue, on progresse, on prend de la force, on prend de la puissance, de l'endurance, tout ça, mais qui n'a jamais passé par un changement corporel. Puis qu'on aime finalement notre corps de ce qu'il est capable de faire. Fait que moi, c'est ça ma vision de l'entraînement, puis c'est ce que je veux mettre de l'avant parce que c'est rare. C'est rare.
Oui, ben c'est ça.
C'est rare.
Tu sais, il faut qu'il y en ait de plus en plus parce que c'est pas évident, puis il y a tellement de sous-couches là-dedans, mais tu sais, moi, je le vois beaucoup avec ma clientèle, cette relation-là, comme un peu toxique, des fois, avec le sport, où des fois, c'est avec la clientèle qui, dès le jeune âge, aimait pas le sport. Puis tu sais, moi, la première, là, tu sais, j'ai une famille hyper sportive, mais moi, je me suis jamais réalisée dans les cours d'activité physique, là, les sports d'équipe, non, je détestais ça. Écoute, je cueillais des fleurs sur le terrain de soccer. Tu sais, mon père capotait sa vie, là, mon père qui est tellement compétitif dans la vie. Tu sais, j'ai appris à aimer ça, mais moi, j'ai le privilège de jamais avoir eu de relation difficile avec la nourriture ou avec mon corps. Mais chez ma clientèle, cette relation-là avec l'activité physique, ils n'ont jamais développé le réel plaisir de bouger. Puis après ça, ils sont embarqués des fois dans la culture des diètes. Puis la culture des diètes amène à bouger d'une certaine façon, avec un objectif très précis, justement, modeler ton corps, viser la perte de poids, brûler des calories. Et ça vient avec beaucoup de « je devrais », »,« il faut » et de culpabilité que tu le fais pas. Fait qu'après ça, quand on travaille la relation à la nourriture, ben des fois, oui, il va y avoir cet écœurantite-là que tu parles du sport qui est tout à fait normal. Puis des fois, ce qui est dur, c'est d'apprendre, puis c'est pas juste de réapprendre, parce que pour certaines personnes, c'est d'apprendre à comment moi, j'aime bouger. Oui. C'est ça. Tu sais, je sais ce que j'aime plus, je sais ce que j'aime pas, mais qu'est-ce que j'aime? Puis là, tu sais, c'est pas évident, parce que tu parlais, mettons, de cours de danse, de yoga ou peu importe, mais il faut qu'il y ait des endroits qui sont comme safe aussi, tu sais, pour que tu y ailles et que tu te sentes bien. Puis là, c'est en plus, ben justement, tu sais, t'es pas super à l'aise ou ton image corporelle est difficile d'aller exposer ton corps dans ces milieux-là. Des fois, ça... Fait que tu sais, c'est pas évident. Fait que merci de normaliser, mais en même temps, merci de mettre l'espoir que oui, c'est possible. Puis il y a toutes sortes de façons de bouger maintenant qui peuvent être utilisées. Puis c'est pas... Tu sais, ça, c'est un
autre point. C'est pas de l'entraînement.
C'est ça, tu sais, c'est pas obligé d'être... T'sais, ça vient beaucoup de la culture des diètes, ça aussi, mais tu sais, de dire ça vaut pas la peine si tu brûles pas tant ou si tu fais pas ci ou si tu fais pas ça, là, tu sais, genre, ah, une marche, ça sert à rien. Mais oui, une marche, ça sert à quelque chose. Ça fait moi, j'aime ça marcher, là, je veux dire, je te ferai pas la vente de la marche, mais il y a du monde qui aime ça marcher. Mais dans le sens que c'est pas obligé d'être intense, ça peut être très doux puis faire super du bien pour ta santé mentale. Ça peut vraiment aider toute ta santé en général, quand même, ton psychologique. Ça peut être super bon pour toi, super intéressant. On s'en fout du nombre de calories que tu as brûlées. Puis de toute façon, là, le corps, là, il ne brûle pas nécessairement le nombre de calories que sa machine. Là. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Mm-hmm. Quand, plus tu bouges, plus tu as besoin de manger pour adapter en conséquence aussi. Là. Fait que c'est pas un simple calcul mathématique. Là. C'est plus complexe que ça. Là.
Exact. Puis c'est pour ça que, oui, moi, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement que je donne, que j'enseigne. Mais justement, les gens peuvent venir l'essayer. Puis ça, c'est correct aussi de ne pas avoir aimé, là. Tu sais, c'est pas un garantie de 100% que tu vas te mettre à aimer l'entraînement, mais au moins, c'est de voir qu'est-ce qui m'a allumé, puis après, de diversifier un peu la façon puis les manières, puis Puis moi, ben, j'aime partager justement d'autres façons qu'on peut bouger ou des entreprises ou des personnes à suivre que je sais que c'est safe parce que je sais à quel point ils sont rares. Mm-hmm. C'est difficile à trouver. Puis quand on est en mode d'exploration, ben, c'est facile d'avoir des triggers si on n'est pas comme
tellement
dans des places qui sont inclusives. Fait que c'est important de les essayer dans un cadre safe, comme on dit, pour vraiment pouvoir se laisser la chance de réellement l'essayer puis de se sentir à l'aise, de voir j'aime-tu vraiment ça, ce mouvement-là ou cette façon de bouger-là en dehors de comme « Oh mon Dieu, tout le monde me regarde, ben là, moi, c'est je pourrais faire ça, la fille en avant a fait telle chose. » Donc, c'est de l'exploration qui peut être difficile puis je pense que c'est là aussi que l'idéal est de se faire accompagner si on a le privilège de le faire, que ce soit avec des nutritionnistes. Je sais que quand même si les nutritionnistes, c'est pas des kinésiologues, mais avec le temps, on se fait des bottins de safe place entre nous autres, puis on est capable de référencer ou de suggérer des choses. Donc, de se faire accompagner, que ce soit psychologue, thérapeute, peu importe, ben ça va nous aider à cheminer à travers ça d'une manière plus safe pour soi, puis de pouvoir se laisser la chance de voir ce qu'on aime finalement, puis de le découvrir.
Oui, vraiment, il y a tellement d'éléments dans ce que tu as dit. Puis il y en a, des kinésiologues qui vont travailler beaucoup avec cette mentalité-là de plus en plus, là. T'sais, c'est pas une majorité, mais il y en a de plus en plus, puis ils sont de plus en plus sensibilisés, puis il peut sortir des choses super intéressantes de ça aussi. Puis ça peut être l'entraînement aussi. T'sais, quelqu'un peut l'essayer avec toi, mais tu peux détester l'entraînement avec quelqu'un qui n'est pas inclusif ou quelqu'un qui est dans la performance ou quelqu'un qui, justement, te fait sentir que tu n'es pas assez ou que tu n'es pas bon. Comme tu peux adorer ça avec quelqu'un qui, justement, te met à l'aise puis qui n'est pas dans la comparaison aussi puis qui l'adresse, cette comparaison-là, parce que, tu sais, je pense qu'on est tous portés à se comparer quand on commence des nouvelles choses, là. C'est comme, c'est sociétal, là. C'est la performance, c'est la même affaire, mais tu sais, de revoir les raisons pour lesquelles on veut bouger aussi, puis de revoir tout ce cheminement-là. Il y a tellement d'éléments. Des fois, c'est d'aller travailler aussi sur soi. Là. Puis, tu sais, c'est peu importe le poids. Là, tu pourrais être dans un poids qui fit dans la norme, puis quand même, t'as comparé que toi, t'es pas assez hot, ou toi, il y a telle affaire qui fait pas ton affaire. Ou... Fait que, tu sais, l'image corporelle, c'est pour tout le monde. Là. Ça peut être travaillé pour tout le monde, puis tout le monde peut rusher. Puis les troubles alimentaires, ça peut être pour tout le monde, à tous les corps aussi. Là. Fait que,
ouais. Oui. Puis même en essayant un certain sport ou un certain cours, ou peu importe la façon, des fois, c'est justement c'est la personne qui est en avant qui est peut-être... qui nous convient pas, mais c'est pas le choix de l'activité qui est pas bonne. Exact. Donc, des fois, ça prend aussi ça d'essayer. Donc, tu sais, des personnes qui vont aimer l'entraînement vont essayer une certaine coach ou une certaine personne qui l'enseigne. Ça marche un peu moins. Après ça, ils essayent avec une autre. Ah, ça me rejoint. Mais des fois, ça prend du temps d'essayer. Puis je pense que, justement, c'est d'écouter son instinct puis la petite voix qui nous parle de nous dire il y a un petit quelque chose. Puis de s'éloigner de ça, parce que des fois, quand ce petit flag-là arrive dans notre tête, bien, des fois, il faut l'écouter. Puis d'essayer une autre personne, puis ça peut prendre du temps, puis il faut se donner le temps. Il faut être bienveillant, puis avoir de la compassion envers soi pour trouver la bonne façon. Puis j'en ai des participantes qui ont essayé toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de coachs, toutes sortes d'entraîneurs qui m'ont connue, qui ont été un bout de temps avec moi. Après ça, un certain mois, ils ont décidé d'aller avec quelqu'un d'autre qui est bien correct, j'accepte ça, moi, il n'y a vraiment pas de problème. Puis finalement, le mois suivant, ils reviennent avec moi puis sont comme « Ah, j'ai essayé, puis non, ça me convient vraiment pas. Moi, je suis vraiment bien avec toi, puis je reste. » Puis fait que ça se développe. Puis c'est en essayant qu'après, on devient de plus en plus connaissante de son ressenti, connaissante de son corps, connaissante de ses envies, puis d'être à l'écoute, puis de le respecter, de respecter ce qu'on est, puis de continuer dans cette lignée-là et non pas de faire comme tout le monde ou de faire comme tous ceux qui ont essayé tel programme, puis d'aller juste avec ce qui nous convient à nous. Puis je pense que c'est là qu'après, on peut vraiment découvrir des belles choses, puis de finalement avoir du plaisir à faire ce qu'on fait pour bouger notre corps.
Oui, vraiment. Puis je pense que, tu sais, une des choses qui est importante dans ce que tu as dit aussi, c'est de vraiment faire l'exercice introspectif d'aller voir c'est quoi ma motivation à bouger. Tu l'as nommé tantôt, là, des fois, on a des indicateurs externes, que ce soit la montre, le nombre de calories, la performance, mais tu sais, d'une journée à l'autre, selon ton énergie, ton niveau de fatigue, d'une semaine à l'autre, ça peut varier. Puis Mais si tu le fais pour quelque chose d'externe, puis comme n'importe quel changement d'habitude, ça sera pas maintenu dans le temps, tu sais, ça va être trop... C'est comme... C'est... Puis c'est démontré dans les études, là, quand ta motivation est extrinsèque, ça dure pas, tu sais, puis c'est pas le fun, là, tu sais, il y a rien d'agréable là-dedans. Mais d'aller voir, tu sais, au lieu de vouloir moduler mon corps ou de faire comme tout le monde ou de... Ben, la culture des diètes m'envoie plein de messages comme quoi il faut que je fasse tel type d'entraînement, sinon ça vaut rien, tu sais, de revenir à la base de... C'est quoi que moi j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi je veux bouger mon corps? Est-ce que je veux bouger mon corps? Pourquoi je veux le bouger? Comment je veux le bouger? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je suis prête à essayer qui est safe pour moi, dans lequel je me sens bien? Mais tu sais, oui, je peux dépasser un peu mes limites. Pas mes limites, mais ma zone de confort. Pas la même chose. Les limites, on dépasse pas ça. Mais dépasser, sortir de ma zone de confort en restant dans mes limites. Mais tu sais, d'essayer de se connaître, en fait, puis tu sais, ça a l'air facile à faire, mais des fois, on a 40 ans puis on le sait pas plus comment, là, tu sais, c'est pas clairement une question d'âge, là.
Clairement, puis, tu sais, j'aime ce que tu dis, puis ça va aussi en lien de se dire comment j'ai le goût de bouger mon corps aujourd'hui. Parce que même si tu avais prévu un entraînement ce soir, puis que tu avais dans ta tête que, ouais, je vais faire un gros workout ce soir, ben ça se peut que ta journée de travail t'est rentrée dans le corps, ça se peut que tu aies vécu des émotions, que tu aies été anxieuse, que tu aies été stressée, tu es tendue, puis que t'en as plus d'énergie rendue le soir, mais que tu te forces à le faire pour encore plus te brûler, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire comment j'ai le goût de bouger aujourd'hui, maintenant. Parce que mon énergie du matin sera peut-être pas la même que ce midi. Ben, ça sera clairement pas celle de ce midi. Puis, sera pas la même ce soir, puis sera pas la même de demain. Fait que je pense qu'il faut aussi se ramener à au moment présent, puis de se dire qu'est-ce que j'ai besoin là, présentement. Comment mon corps me parle. Moi, c'est des choses que j'ai intégrées puis que j'ai appris à faire, on s'entend. C'est vraiment pas venu de manière instinctive, là.
Ah non, hein, c'est pas évident à faire, ça, là. Non.
Puis, je me suis mis des rappels de me dire, OK, tu sais, je ferme mes yeux. Comment je me sens présentement? Est-ce que je me sens tendue dans mes épaules? Tu sais, ça, habituellement, dans mes trapèzes, là, je sais que ça, c'est parce que je suis stressée. Fait. Dès que c'est tendu, je le sais, c'est ça que ça veut dire.
Ouais, bon. Ouais.
Fait que ça se peut que, ben, c'est peut-être pas d'un gros entraînement que j'ai besoin pour pousser de la fonte que j'ai besoin. C'est peut-être juste de m'étirer, de faire un genre de yoga, mais pas yoga parce que j'aime pas le yoga. Mais c'est peut-être juste des étirements que j'ai besoin, puis d'allonger mon corps, puis de le détendre. Ça se peut que ce soit de m'automasser les épaules parce que c'est justement ça que j'ai besoin dans le calme, point final. Ou est-ce que je me sens comme un surplus d'énergie, là, tu sais, un peu comme un enfant qui se retient toute la journée à l'école? Ben, c'est peut-être juste de lâcher mon fou, de mettre de la musique à tue-tête, puis de me laisser aller, puis danser comme si j'avais 15 ans. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut être à l'écoute de son corps, puis dire est-ce que ce que je vais choisir comme mouvement est approprié à ce que mon corps me parle aujourd'hui, maintenant?
Non, ce que je devrais.
Et exactement, puis même, tu sais, moi, dans mes cours que je donne, tu sais, je donne des entraînements en live sur Zoom avec mes groupes à chaque mois, puis, tu sais, oui, c'est à l'horaire, là, il y a un horaire parce que je suis en live.
Ben oui, c'est normal. C'est logique, hein?
C'est ça, mais je dis tout le temps, d'entrée de jeu, même à chaque début d'entraînement, je dis, comment tu te sens aujourd'hui? Si tu te sens super énergique, go, donne-toi à 110% si c'est ça que tu ressens, puis let's go, prends plus lourd, saute plus fort, donne plus d'amplitude. Puis si aujourd'hui, tu te sens vraiment plus fatigué puis ta batterie d'énergie est low, là, low battery, ben vas-y doucement. Fais plus de pauses. Skip des mouvements, c'est pas grave. Prends plus léger. T'es tanné, drop tes poids. Fais-les juste en mouvement, mais sans avoir de charge dans tes mains. Puis si vraiment tu te sens comme c'est pas ça qui te convient, mais tu sais, j'en ai des filles, là, des fois, qui viennent quand même dans le live, puis je les vois s'étirer. Ils font des étirements, puis des positions de yoga.
Mais sont là. Bravo, là! Mais bravo de... Oui. Pas de le permettre, mais que... Tu sais, tu comprends que tu crées une atmosphère où les gens se sentent à l'aise de le faire. C'est hot, oui. Là! C'est vraiment hot, là!
Puis vu qu'ils se sentent dans une safe place, puis qu'ils créent... Tu sais, il y a une création de communauté un peu envers mes participantes. Puis, moi, je les vois dans l'écran, là, quand il y en a qui font des chiens tête baissée, après ça, ils se font des écarts. C'est pas moi qui enseigne ça, là. Mais je les félicite pareil dans l'entraînement. Je suis pas en train de dire « Hey, Madame X, t'es pas en train de faire des burpees, ah ouais, let's go, force-toi! » Non! Même que je vais féliciter, je vais faire « Hey, bravo à telle, elle est en train de s'étirer, mm-hmm. C'est ça qu'elle avait besoin, point final. » Mais elle voulait être présente pour nous entendre, pour m'entendre, pour être dans un endroit safe, même si elle fait pas la même chose. parce qu'après, on partage comment ça s'est passé pour nous la journée, la semaine, l'entraînement, peu importe. Il y en a qui vont nous le dire, hey, aujourd'hui, je me sentais tellement fatiguée, j'avais juste besoin d'être slow, mais d'être avec vous autres. Fait que, tu sais, c'est là que je suis comme, waouh!
Wow! Wow! Okay. Non, t'sais, mais vraiment, tu sais. Oui, c'est ça, écoutez, mais t'as mis l'environnement
oui.
assez safe pour qu'elle le fasse aussi, parce que comme tu dis, oui, dans certains cours, la mentalité, ça va être, ben non, let's go, on se lève, no pain, no gain! Ouais! Quand même, il y a des risques aussi à faire ça puis après s'écouter parce qu'il pourrait avoir des risques de blessure aussi là, si on pousse trop la machine puis on s'écoute pas.
Totalement.
Là, c'est oui, trouver totalement. Son équilibre. Hein, c'est toujours, ça revient toujours à ça. Là, c'est toujours l'équilibre. Hein, c'est jamais dans les extrêmes. Mais c'est pas évident à faire parce que c'est pas clair. C'est pas écrit. Puis tu peux pas leur dire non plus comme moi. Je peux pas dire à mes clientes c'est quoi leur équilibre puis qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Tu sais, ça part vraiment d'eux autres. Là.
Oui, puis je le dis souvent, c'est toi la spécialiste de ton propre corps. Je le dis dans mes cours, je dis, je ne sais pas moi si tu es rendu à prendre du 3 livres, du 10 livres ou du 15 livres, puis est-ce que tu es supposé de te pencher plus dans un certain mouvement? C'est toi le maître de ton corps, puis tu le ressens. Donc, moi, je donne toutes les variations, toutes les possibilités possibles. Oui, super.
On t'a compris.
Toutes les possibilités, mais après ça, c'est à la personne d'aller prendre ce qui lui convient. Puis je fais toujours des reminders, même à travers l'entraînement, à travers les blocs, les séries, ben de dire, OK, là, dans la pause, là, comment tu te sens, là? Est-ce que tu sens ton cœur battre tellement vite qu'il faut que tu ralentisses? Est-ce que tu sens des inconforts? Y a-tu des muscles qui, là, ça commence à faire mal un peu? Ça se peut que là, ton corps est fatigué puis il t'envoie un signe de ralentir ou de plus faire ce mouvement-là. Tu sais, des fois, on atteint une certaine limite, on apprend à connaître notre corps puis, ou des anciennes blessures qui reviennent, puis, oh, OK, tu sais, si une douleur au bas du dos, dans les lombaires, oh, ça veut dire que t'as pas engagé assez tes abdominaux, ben là, c'est un signe, oh, je me suis comme peut-être déconnectée de la façon qu'il fallait que je contracte pour pas avoir de blessure. Fait que c'est tous des petits moments de connexion que je vais rappeler tout au long de mes entraînements, puis je le dis assez souvent, tout le temps, qu'on en rit parce que je me répète souvent, mais justement, ça rentre, puis ça devient un mané un peu plus naturel d'y penser, puis il y en a des fois, c'est ça, qui vont faire une série d'une certaine manière, puis la série d'après, ils ont enlevé les poids, ils ont peut-être fait d'autres mouvements parce qu'ils ont dit, OK, moi, j'en avais assez. J'ai commencé à avoir un petit inconfort, une petite douleur, ouf, mon énergie n'est plus là, oh, mon cœur battait tellement vite, faut que je relaxe. Fait que, tu sais, c'est une connexion parce que je peux pas le savoir, encore moins devant un écran, puis même si la personne est en personne, je pourrais pas le savoir non plus. Il y a des signes, là. Si je vois la personne est blanche et elle voit des étoiles,
oui.
Je vais le voir, mais...
Réellement, avant ça, la personne on veut qu'elle s'en rende compte avant d'arriver là, c'est ça.
Exact, ouais. Mais c'est ça, la connexion à soi est tellement importante, puis je pense qu'il faut apprendre à le faire. Ça s'apprend, ça prend du temps, mais c'est possible. Faut juste pas se mettre la pression de y arriver au jour 1, là. C'est tranquillement pas vite qu'on réussit, puis après ça, on devient expert de son corps, finalement.
Oui, définitivement. Puis ça me fait réaliser à quel point on entend beaucoup plus parler de l'importance de travailler sa relation avec la nourriture, de se défaire des restrictions, de la culture des diètes, des règles, de trouver son propre équilibre. T'sais, ça, on entend plus parler parce qu'on est plus présente sur les réseaux sociaux à le faire. Mais la relation à l'activité physique, on commence à en entendre parler, mais je ne sais pas à quel point on entend parler autant, mais c'est tellement tout aussi important. C'est un autre enjeu quand même. Mais... assez important, fait que de trouver, c'est ça, de revoir cette relation-là qu'on a finalement avec l'activité physique, avec le mouvement, peu importe, là, c'est pas obligé d'être un support ou une activité, mais avec le mouvement en tant que tel, puis de se questionner par rapport à ça, puis d'essayer aussi, de se permettre d'essayer, puis de se permettre de se tromper, puis de se permettre,
Oui, puis c'est tout un peu interrelié finalement quand on y pense. Mais... tu sais, la connexion à son corps, ben autant tu vas la travailler pour travailler une meilleure image corporelle de toi, que tu vas la travailler dans ton ressenti, avec ton assiette, tes signaux, que tu vas le travailler aussi en bougeant. Fait que je pense que tout est comme interrelié, ils ont tous des liens qu'un moment donné, en travaillant une chose, sans le savoir, ça travaille l'autre parallèle qui va aider à l'autre d'après. Fait que tu sais, je pense qu'il faut pas prendre ça tout d'un coup pour essayer de tout régler en même temps. Je pense que c'est pas réaliste, ben en tout cas, de mon avis personnel, c'est peut-être pas réaliste de vouloir tout régler en même temps. Faut y aller par étapes. Puis des fois, les étapes, ça peut être un petit moment. Après ça, on travaille d'autres choses, on revient à l'autre, puis ça évolue. Tu sais, tout cheminement peut évoluer. tout rétablissement à une relation malsaine à aller à une relation saine va évoluer autant dans toutes ces sphères-là, mais ça a tellement tout des liens finalement que tout va aller de manière plus positive. Puis justement, on a tellement des fois des passés plus troublés ou difficiles avec le monde de l'activité physique et du mouvement que ça peut prendre du temps. Plus de temps, par exemple, que quelqu'un qui va travailler sur son assiette ou sur son image. Fait que je pense que, tu sais, c'est pas pareil pour personne. Ça prend pas la même durée pour personne non plus. Mais c'est faisable. C'est faisable, puis faut l'améliorer, finalement.
Ah, j'aime ça. Puis, mon Dieu, ça fait une belle conclusion. C'est comme un beau mot de la fin. Hey, si justement, Jess, on est intéressé par tout ce que tu dis, puis on se dit, ah, il me semble que j'aimerais ça commencer, puis l'essayer avec toi, t'as l'air d'être une safe place. Les gens peuvent aller sur tes réseaux sociaux. J'imagine que je vais mettre tout ça, bien sûr, dans la description de l'épisode, mais si tu veux les nommer...
Oui, donc ma page Instagram, où je suis vraiment le plus active au quotidien, qui est jessbrod_fit. Et en passant, le fit n'est pas pour être un trigger pour personne. C'est que ma page, je l'ai commencée dans le monde du fitness il y a très longtemps et je trouvais ça cool de mettre fit pour les recherches fitness. Puis, ben avec le temps de rétablissement, ça c'est une très grande parenthèse, mais je trouvais ça encore plus drôle de laisser le fit pour les gens qui pensent que c'est une page de fitness. Puis c'est les... Donc, ouais, si ça n'est pas dans le sens de fitness, restriction et le monde de compétition et tout, ben non, justement, je suis tout le contraire. Je suis dans le mouvement intuitif, donc je l'ai gardé parce que je trouve ça encore plus drôle. Donc ça, c'est ma page Instagram. Sinon, j'ai mon site web, jessbrodfit.ca. C'est là-dessus que je mets, dans le fond, tous mes programmes. Donc je fais des programmes personnalisés, je fais des entraînements privés, je fais des entraînements de groupe. Tout est là, j'en fais à tous les mois des entraînements de groupe, puis n'importe qui peut commencer n'importe quand. Puis les filles qui sont là tous les mois sont tellement gentilles, bienveillantes et inclusives de autant les nouvelles qui arrivent que des anciennes, vous allez voir, là, c'est vraiment un beau safe place à essayer, donc c'est vraiment mes plateformes. Et j'ai aussi ma page YouTube, Jess Brodfit, donc ma page YouTube où j'ai beaucoup, beaucoup d'entraînements de 2 à 5 minutes. Alors s'il y en a qui veulent voir un peu ma façon d'entraîner, ma façon de parler, ma façon de bouger. Il y a beaucoup de choses là-dessus, en plus de d'autres choses d'épicerie puis de vêtements, mais vous pouvez aller voir ma page YouTube, c'est tout gratuit, alors profitez-en.
Merci beaucoup, hey, merci de ton temps, j'ai vraiment adoré cet épisode, c'était super pertinent, puis c'est un sujet que j'avais pas tant touché encore, fait que un énorme merci à toi.
Merci beaucoup, Sarah.
Pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.